Le vendredi de 16h à 17h, FME Radio vous emmène au Fibre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans 24e ciel sur FMR. Très heureux de vous retrouver dans votre rendez-vous du vendredi après-midi qui vous emmène au 24e ciel. Julien et Romain sont bien sûr avec moi. Comment ça va, mon Julien?
Ça va et toi?
Très très bien. Très heureux de te voir.
Eh ben, très heureux aussi, hein, tu vas très bien.
Et toi, mon Romain?
Très content de partager l'antenne avec vous comme tous les vendredis.
Ah, génial. Nous aussi, mon Romain. Alors, qu'est-ce qui vous attend cet après-midi? Julien nous parlera des Game Awards, l'événement pour élire le jeu vidéo de l'année. On continuera avec la séquence Le saviez-vous? On vous donnera une info courte et sympa à connaître sur l'enseigne Starbucks, le genre d'info qu'on aime ressortir en société. On parlera également sport automobile avec Romain qui nous parlera du Grand Prix de Formule 1 du Brésil. Puis on reviendra sur ce qu'il ne fallait pas manquer sur les réseaux sociaux. On accueillera enfin notre invité, Andréa Lafontaine, qui viendra nous parler de son dernier album, La Fatalité, dans lequel vous pouvez pour la première fois l'entendre chanter en français. Il nous parlera aussi de son concert de demain soir au Théâtre de Liège. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais tout de suite, on commence avec les infos de la semaine. On commence avec une bonne nouvelle qui va réjouir petits et grands, c'est la magie des fêtes qui s'installe déjà chez nous avec les premiers marchés de Noël qui vont commencer dès cette semaine en Wallonie et en Flandre. Ah, ce sera l'occasion de faire de petites excursions pour les visiter en découvrant du pays. Alors, où est-ce qu'on peut déjà en trouver? Au marché de Noël de l'abbaye de Maretsou pour commencer. D'ailleurs, il est déjà ouvert hein, depuis une semaine déjà avec 75 chalets qui proposent des cadeaux ainsi que de la restauration. C'est un cadre magnifique hein, là-bas. Julien, Romain, vous avez déjà été à l'abbaye de Maretsou?
Il y a longtemps, oui. Mais pas pour le cadre de Noël, juste comme ça de passage.
Ah, t'avais aimé?
Oui, très bien. C'était très bon aussi là-bas, la restauration prévue sur place.
Ouais, bon pain, bon fromage, bonne bière là-bas. Hein. C'est vraiment un très chouette endroit. Et toi, mon Julien?
Absolument pas, non.
Pas du tout?
Du tout.
Ah, ça va peut-être te donner le projet d'y aller pour justement le marché de Noël à Maretsou. Et justement, hein, de Maretsou, on passe à une septantaine de kilomètres vers l'est pour aller dans la plus petite ville du monde. Quelle est la plus petite ville du monde, messieurs?
Durbuy.
Et un point pour Romain.
Merde.
Durbuy, où le marché de Noël ouvre aujourd'hui, hein, vendredi 21 novembre jusqu'au dimanche 4 janvier 2026, sur la place aux Foies. Bon, c'est la place principale de la ville. Et dans le parc Roi Baudouin, qui est juste à côté, vous pouvez aussi profiter de la patinoire géante, hein, couverte en plein cœur du marché de Noël. Allez, on reste une dernière fois en Wallonie, en se rapprochant de Mons. J'en profite pour embrasser celles et ceux qui nous écoutent de Mons, où le marché de Noël est en plein préparatif d'ailleurs, pour vous parler de celui de Charleroi, qui lui aussi nous accueille à partir d'aujourd'hui, vendredi 21 novembre, jusqu'au dimanche 4 janvier. On le retrouve comme d'habitude sur la place verte avec une patinoire où il y aura d'ailleurs des séances d'apprentissage organisées. Quelle bonne idée! Le village de Noël de Charleroi est aussi installé sur la place de la Digue avec des chalets qui proposent des plaisirs de la bouche et des créations artisanales. Voilà, destination la Flandre maintenant avec le marché de Noël de Bruges. Devinez quand il ouvre?
Bah je sais pas, comment ça, demain?
Ah ben non, aujourd'hui,
voilà.
Comme les autres les gars, là aussi, d'aujourd'hui au dimanche 4 janvier, on le retrouve sur la Grand Place de Bruges et sur la place Simon-Stevin. C'est dans le cadre de l'événement Lueur d'hiver qui est organisé. Bah, j'imagine le charme que ça doit être, hein, la belle ville de Bruges décorée pour Noël. Vous savez que vous êtes dans 24e ciel quand après une bonne nouvelle, vous entendez une autre bonne nouvelle. Ce sont les Diables Rouges qui ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde ce mardi 18 novembre. Ils ont battu le Liechtenstein 7-0. Bien joué, hein, c'est le cas de le dire. Et où ça en plus? Ici à Liège, dans le stade du Standard. La Belgique se qualifie pour sa 15e Coupe du Monde, la 4e consécutive. Cette victoire permet à notre équipe d'être tête de série et d'éviter dès les premiers matchs de gros morceaux, hein, comme entre autres nos voisins français, les tenants du titre argentin, mais aussi l'Espagne, hein, vainqueur du dernier Euro. Dis, Romain, le football c'est ton truc, hein. Ça peut nous aider à accéder aux 16e de finale tout ça alors?
D'une part oui, après on a bien vu que lors du dernier Euro, c'est pas parce qu'on est tête de série qu'on a eu facile, hein. On a eu beaucoup de mal et on s'est fait accrocher par des nations qu'on aurait dû normalement battre en toute logique. Faut pas aussi oublier qu'on peut encore tomber sur l'Italie si elle est repêchée en barrage européen, et il faudrait aussi faire attention à certains pays. comme la Norvège qui a fait une séance de qualification monstrueuse. Après, une Coupe du Monde reste une Coupe du Monde, il n'y a pas de match facile. Certes, on ne tombera pas contre aussi le Brésil ou l'Angleterre, mais ça reste quand même d'être compliqué, surtout vu la forme actuelle de la Belgique. Ce ne sera pas facile, mais ça nous avantage d'une part pour du moins la phase de poule.
On prend bonne note de ton diagnostic, mon Romain. On va maintenant vous apprendre un terme journalistique peut-être vous ne connaissez pas. C'est le marronnier. En journalisme, un marronnier, c'est un événement qui revient chaque année à la même période. On va donc parler d'un marronnier maintenant avec l'immanquable Black Friday 2025 qui aura lieu le vendredi 28 novembre prochain. On est très content de joindre l'utile à l'agréable en se faisant plaisir à prix réduit. Mais on se pose souvent la question, est-ce que les marchands font de vraies promotions ou est-ce qu'ils gonflent leurs prix avant de les baisser en trompe-l'œil hein, avant le Black Friday? Et justement, comme le pensent d'ailleurs près de 6 acheteurs sur 10, ils disent « Romain, Julien, vous faites plutôt partie de ceux qui se réjouissent du Black Friday ou de ceux qui en sont méfiants ?»
Moi, je m'attends toujours au Black Friday. J'économise toute l'année pour le Black Friday. Moi, j'adore ça parce que voilà quoi. C'est toujours le moment où il faut payer quelque chose. Quoi.
C'est vrai ou pas?
C'est vrai.
Vraiment pour faire des bonnes affaires, quoi.
C'est ça. J'ai acheté mon PC l'année passée en Black Friday. J'ai économisé 3 fois le prix dessus. Franchement, ça va.
Franchement, ça, c'est vérifié question tarif, quoi.
J'ai vérifié début d'année pour mettre dans un panier parce qu'on m'aura pas. On m'aura pas. Pas moi.
Ah, monsieur, tu es un brillant homme d'affaires à ce que je vois.
Ah,
alors.
Ça oui.
Et toi, mon Romain?
Eh ben moi, non, jamais. Enfin, je fais jamais d'achat vraiment, même pour moi, donc que ce soit les Black Friday ou pas, ça m'est égal. Bah, j'y vais quand même pas. Bah, j'y vais quand même pas, donc.
Ah, après, on profite pas.
Bah, c'est toujours l'occasion. Si je vois Black Friday, pourquoi pas? Mais en soi, qu'il y ait Black Friday ou pas, j'en profite pas du tout. Mais je dépense jamais grand chose, je m'achète jamais vraiment quelque chose en particulier, donc.
Alors, on sait que les promotions s'étalent sur tout le mois de novembre, mais c'est le jour du Black Friday hein, qu'a lieu l'essentiel des bonnes affaires. C'est Idealo, une entreprise qui compare les prix et les produits en ligne, qui nous apprend que les produits qu'on devrait retrouver à prix réduit sont 8 smartphones, dont l'iPhone 17, les AirPods, la Nintendo Switch, les ordinateurs portables ou encore les coffrets Lego. Et pour ceux qui croient que les prix augmentent avant le Black Friday, ce serait pas le cas, comme le montrent les relevés d'année passée avec des prix en baisse dès le début du mois de novembre hein, quand même. Alors on entend de tout hein, comme conseil pour faire de bonnes affaires ces prochains jours, bon, qu'il vaut mieux craquer sur une offre tant qu'elle est disponible plutôt qu'attendre une nouvelle baisse de prix un peu plus tard, ou bien au contraire hein, qu'il vaut mieux attendre le 28 novembre pour acheter, mais surveiller les prix avant c'est toujours une bonne idée. Et en tout cas, si j'ai un conseil à vous donner, hein, vous qui nous écoutez sur FMR, c'est de comparer, d'anticiper, de vérifier et de fixer un budget avant de vous laisser tenter. Alors bien sûr, on peut aussi mettre des alertes prix pour éviter de passer à côté du bon moment pour acheter, mais en évitant les achats impulsifs. Surtout aujourd'hui avec toutes les ventes flash et les tentations qu'on trouve quasi chaque jour. En tout cas, le vrai piège serait après le Black Friday parce que dès le 1er décembre, les prix remontent nettement pour les fêtes de fin d'année. Mais si vous comptez, vous qui nous écoutez sur FMR, profiter du Black Friday pour commencer vos achats de Noël en achetant des jeux vidéo, écoutez bien ce que Julien va nous dire sur les Game Awards, l'événement pour élire le jeu de l'année.
Eh bien écoutez, le 11 décembre se déroulera les Game Awards afin d'élire le jeu de l'année 2025. Cette année, le grand favori n'est d'autre que Clair Obscur Expedition 33, le jeu français créé par d'anciens employés d'Ubisoft. Ce jeu indépendant était une lettre d'amour aux jeux vidéo, au point d'avoir battu le record du nombre de nominations avec 12 catégories différentes, dont la meilleure direction artistique ou la meilleure musique notamment. A titre de comparaison, Death Stranding 2 et Ghost of Yotei sont les deux plus nominés après Clair Obscur avec 7 nominations chacun. Encore une victoire écrasante des Français dans un nouveau domaine.
Ouais, merci mon Julien. Dans un instant, on vous donnera une info sur Starbucks, la chaîne de café américaine. On vient tout de suite après une pause musicale, sans musique, parce qu'on n'a pas les droits. Et si on m'inflige la moindre sanction financière, je me retrouve à la rue avec Charlie, mon petit chien. Merci de votre compréhension. A tout de suite sur FMR. On est de retour dans 24e ciel, votre rendez-vous du vendredi après-midi sur FMR. Merci d'être avec nous. On passe maintenant à Le saviez-vous. On vous donne une info qui est toujours bonne à ressortir en société, comme on dit. Romain, Julien, vous allez parfois chez Starbucks?
J'y vais jamais. Jamais.
Mais au moins, jamais.
C'est trop cher. C'est beaucoup trop cher pour du café.
Jamais non plus, non.
Toi non plus, mon Romain.
Bah non, bah comme Julien, on m'a toujours dit que c'était cher, donc je préfère pas y aller.
Mais, écoutez ce qui suit alors. Il faut savoir que Starbucks gagne aussi de l'argent quand ses clients ne boivent pas de café. Comment ça, me direz-vous? Eh bien, dites-vous que cette très célèbre chaîne de café américaine détient environ 2 milliards de dollars de bons d'achat et cartes cadeaux, dont près de 10% ne seront jamais dépensés, ce qui représente un bénéfice d'environ 200 millions de dollars. Alors, cet argent leur permet de générer des dizaines de millions de dollars d'intérêts par an. Bon ben, je vais aussi vendre des bons d'achat et des cartes cadeaux, moi alors, non?
Oui, ça a l'air d'être pas dégueu. Ça a l'air d'être pas dégueu.
Ça a l'air d'être assez rémunérateur. On reste en Amérique, mais en Amérique du Sud maintenant, avec Romain qui va nous parler du Grand Prix de Formule 1 du Brésil. À toi de jouer, mon Romain.
Merci Charles, c'était déjà le 21e rendez-vous de la saison au Brésil, sur le mythique circuit d'Interlagos, situé dans la préfecture de Sao Paulo. 5e week-end sprint de la saison, et qui dit course sprint dit une seule séance d'essais libres, course sprint samedi et le Grand Prix le dimanche. D'ailleurs, dès vendredi, s'est déroulée la qualification pour la course sprint, une séance qui a souri à Lando Norris, nouveau leader du championnat, qui décroche la pole position devant un surprenant Kimi Antonelli, qui signe le deuxième temps, car Piastri, l'autre prétendant au titre, est non loin derrière et s'élancera troisième pour la sprint. Samedi matin, en toute logique, s'est déroulée la course sprint, une course de 24 tours qui aura donné du spectacle dans le bon et le mauvais sens, avec tout de même pas mal de sorties, celle de Piastri, Hülkenberg et Colapinto à quelques secondes d'intervalle au virage numéro 3, entraînant un drapeau rouge, sans oublier l'effrayant crash du pilote brésilien Gabriel Bortoleto, qui tapa le mur à deux reprises avec notamment un impact à 57G, soit 57 fois son propre poids. Heureusement, le Brésilien s'en sort indemne et a pu poursuivre le week-end. C'est là qu'on voit aussi l'évolution de la sécurité au sein des monoplaces actuelles. Une course sprint qui sera finalement remportée par Lando Norris, qui prend à ce moment du week-end 9 unités d'avance sur son plus proche rival. En qualification, Lando Norris semble inatteignable et prend la pole devant Kimi Antonelli. Le jeune pilote italien réussit à garder la deuxième place depuis le début du week-end et semble avoir retrouvé de la performance depuis le retour des Grands Prix en dehors de l'Europe. Une séance solide de Charles Leclerc qui s'en lancera troisième avec une Ferrari très capricieuse depuis le début du week-end et espère pouvoir faire la différence au virage numéro 1 le dimanche. Chez Red Bull, séance cauchemardesque pour l'écurie autrichienne qui voit ses deux voitures éliminées dès la Q1, une première depuis la Russie en 2021, notamment pour Max Verstappen, qui se dit oublier le titre après cette élimination précoce. Le dimanche, lors de la course, grosse désillusion pour Ferrari. Charles Leclerc, pourtant troisième au départ, a été victime en début de course d'un accrochage au virage numéro 1, lui causant une crevaison. Le pilote monégasque a été contraint à l'abandon malgré un solide début de week-end. Une désillusion aussi pour Lewis Hamilton, contraint à abandonner suite à un problème de fond plat. Rien à retenir pour Ferrari de ce week-end. Côté Red Bull, Max Verstappen a débarré des stands suite à un changement de réglage et de moteur. Il réalisera une superbe remontée jusqu'à la 3ème place, s'offrant un podium malgré un week-end difficile, le néerlandais reste en lice pour le titre. Lando Norris, quant à lui, est imbattable depuis le Mexique et concrétise sa pole en victoire et garde encore quelques points en championnat pour espérer le remporter en fin de saison. Il ne reste que 3 grands prix à l'heure actuelle. On notera un très beau week-end du jeune pilote italien de 19 ans, Kimi Antonelli, deuxième de ce grand prix, décrochant son 3ème podium de la saison pour seulement sa première saison en F1. Un week-end où le spectacle était au rendez-vous à Sao Paulo.
Merci Romain, merci. On passe maintenant à ce qu'il ne fallait pas manquer sur les réseaux sociaux. Vous connaissez Mathieu Delormeau comme animateur ou comme chroniqueur chez Cyril Hanouna sur la chaîne W9, dans l'émission Tout Beau Tout Neuf. Vous le connaîtrez peut-être prochainement comme homme politique, figurez-vous. Il compterait en effet se présenter aux élections municipales de Villeneuve-sur-Yonne en 2026. Alors c'est une petite commune française de 5000 habitants située en Bourgogne-Franche-Comté, où il se rend apparemment régulièrement. Mais pourquoi, me demanderez-vous ? Pour y combattre l'insécurité, vous répondrai-je en citant ces mots, je vais revenir et ça va filer droit. Fin de citation. Voilà pour cette annonce qu'il a faite sur W9 le mardi 11 novembre. Vous suivez les émissions de Cyril Hanouna ?
Non, du tout, jamais, j'aime pas moi.
Non !
Enfin, je vois les clips passer sur Twitter, mais c'est très. C'est trop. Je trouve, c'est vraiment trop. Oh là. C'est vraiment des gens qui se foutent un peu la gueule de tout le monde en même temps, même d'eux-mêmes carrément, donc c'est. Je trouve que c'est trop. Voilà.
D'accord, et bien c'est ton avis et tu
et
as
je
raison.
Le partage pas.
Et tu as raison de l'avoir. Et vous, mon Romain?
Ouais, je rejoins Julien. Moi, mais j'aime pas du tout le personnage. Mais je n'entends jamais du bien aussi. Non, j'aime pas trop du tout le personnage. Donc j'accroche pas. Je connais de nom et quelques clips, mais même Delormeau, ça me disait quelque chose, mais.
Ok, ok, mais on...
Désolé, Charles.
Non, on change de sujet, alors on change de sujet. Et non, on ne change pas de sujet. Souvenez-vous, vous qui nous écoutez sur FMR, elle a été chroniqueuse chez Cyril Hanouna. C'est Nabila Benatia. Et ces derniers jours, la rumeur de son divorce avec son mari Thomas Vergara courait sur les réseaux sociaux. Et bon, à votre avis, qu'est-ce qui a fait croire aux gens qu'ils étaient sur le point de divorcer tous les deux?
Un deuxième coup de couteau.
Oh, bonne réponse, incorrect, mais l'idée derrière était pas mal.
Je sais vraiment pas, j'ai aucune foutue idée, je t'avoue.
Eh bien, je vais vous le dire, eh bien, c'est le fait que Thomas ne suivait plus Nabila sur Instagram.
Oh, ça, mon Dieu.
Mais quelle horreur.
Quel fou.
Il a pas honte.
Mais, je sais,
Mais motif de rupture directe.
Et j'en pense la même chose, mais écoutez, nos deux vedettes de télé-réalité n'ont pas réagi tout de suite à l'emballement sur leurs réseaux sociaux. Et si on ajoute à ça le récent divorce de deux autres stars hein, de télé-réalité, Jessica et Thibaut, hein, les réseaux sociaux se sont... enflammé. Alors, Nabila s'est finalement exprimé pour calmer les choses et mettre fin aux rumeurs, mais vous voulez que je vous dise ce que Nabila a répondu?
Mais dis-le-nous, dis-le.
Bien sûr.
Alors, elle était cash là, hein. Là je vous le dis, alors, Thomas, c'est pas un gars qui va mettre ses photos sur Instagram, c'est pas une femme-homme, c'est un vrai homme. C'est un gars qui fait sa vie et il s'en fout des réseaux sociaux, comme tous les mecs devraient être à la base. Voilà, on comprend que c'est Thomas hein, qui n'aime pas vraiment s'exprimer sur les réseaux sociaux et qu'il n'y a donc aucun divorce en vue. Si on a pu en rassurer certains, c'est avec plaisir. Allez, on reste dans la télé-réalité avec Mégane De Saveur. Ça vous dit quelque chose?
Absolument pas.
Pas du tout, non.
Mais alors je vais vous éclaircir les choses. C'est une star de télé-réalité flamande, candidate dans la version belge de l'île de la tentation. Et dans une interview sur YouTube de 2023, elle en a dit un petit peu trop. Écoutez bien, elle avait avoué ne pas avoir déclaré ses revenus d'OnlyFans, la plateforme en ligne où elle publie du contenu de charme payant, sous le nom de Temptation Mégane la tentatrice. En disant, je cite, hein, « Si on déclare tout ce que l'on perçoit, la moitié des revenus disparaît, je trouve ça injuste. » Alors Mégane, de moi à toi, tu as raison, hein, mais bienvenue en Belgique. Alors ça lui a aussitôt coûté l'ouverture d'une enquête fiscale à notre Mégane, et c'est ce mercredi qu'elle a comparu devant le tribunal correctionnel de Bruges. Elle est accusée d'avoir dissimulé au fisc plus de 100 000 euros de revenus d'OnlyFans en 2021 et en 2022. Elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis et 24 000 euros d'amende, plus 65 000 euros d'arriérés d'impôts. Vous croyez que c'est fini? Et non, elle s'est vue confisquer 36 000 euros. Et si vous vous demandez pourquoi autant de sévérité contre Mégane, vous avez bien raison, mais ce n'est pas la première fois qu'elle fait face à la justice. Hein. Elle a déjà été condamnée avec son père au début de l'année pour fraude à la sécurité sociale et l'utilisation frauduleuse des aides liées au Covid-19. En voilà une qui prend des libertés avec la loi. Romain, Julien, un mot pour Mégane?
Full thune. C'est quoi ça? Elle a en dette tout ce que je n'aurais jamais.
Ne dis pas ça de toi devant moi.
Je peux pas te lancer de l'infan, merde.
Et éventuellement, messieurs, un petit message d'encouragement à Mégane. Ou alors, Mégane, maintenant, il faut mettre la main au portefeuille et régler ce qu'il faut.
Assume tes actes.
Il a raison. Malheureusement.
Comme tu le dis, on revient dans un instant dans 24e ciel avec Andrea Lafontaine qui sera notre invité. On parlera ensemble de son dernier album La Fatalité, mais aussi de son concert au Théâtre de Liège demain, samedi 22 novembre. Reste avec nous sur FMR, on revient tout de suite. On est de retour dans 24e ciel sur FMR, merci d'être avec nous. On écoutait à l'instant Ennui mortel d'Andrea Lafontaine. Vous avez aimé sa chanson? FMR l'invité pour vous. Andrea Lafontaine est avec nous cet après-midi dans 24e ciel. Bonjour Andrea.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci à toi.
Tu seras en concert au Théâtre de Liège le 22 novembre prochain, où tu interpréteras sur scène, entre autres, ton dernier album La Fatalité, qui est ton deuxième album solo.
Exact.
Tu y mélanges plusieurs styles, électro, pop, rock. Mais c'est déjà ton cinquième album, en comptant ceux que tu as fait avec The Bukowskis, le groupe pop-rock que tu as fondé avec Olivier Dechamp en 2012. Alors je précise que tu as écrit et composé tous ces albums toi-même, mais grande première avec ton nouvel album solo La Fatalité, comme son nom le laisse deviner, on t'entend chanter en français. Alors, je vais t'épargner le fait de devoir réexpliquer une centième fois pourquoi c'est la première fois que tu chantes en français, mais connaissant ton amour pour l'Italie, à quoi le décor de la pochette de l'album fait écho d'ailleurs, est-ce qu'on peut s'attendre à un album en italien un jour?
Oui, c'est un projet, c'est mon plus gros projet pour l'instant. Il y aura peut-être une petite chose entre temps, mais mon plus gros projet sur lequel je travaille depuis le plus longtemps est un album en italien qui, je l'espère, sortira dans l'année qui vient, peut-être un peu plus.
Donc on peut l'attendre avec impatience, oh. C'est permis alors.
Oui, bien sûr.
Et ce serait idéal pour un concert sur la Grand Place de Pérouse, un lieu que t'aimes beaucoup.
Effectivement, oui, je pars beaucoup en Ombrie l'été, je passe tous mes étés en Ombrie et en Toscane. Oui.
Tu seras donc en concert le 22 novembre prochain au Théâtre de Liège, un concert dans lequel tu seras accompagné sur scène par le groupe Ivy, un groupe aux influences funk, jazz, afropop et R&B entre autres. On peut dire que leur musique est assez différente de la tienne. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te faire accompagner par Ivy sur scène ?
C'est justement ça. Moi, je viens donc d'un univers plus rock, parfois blues, parfois rock indé, folk. Il y a un peu tout ce mélange-là qui est une musique un petit peu plus carrée par moment. Et j'avais besoin d'un peu plus de nuances pour ce disque en français qui est un petit peu plus chaloupé, soul, un peu plus doux par moment et tout ça. Et je voulais essayer de mélanger ces influences un peu différentes avec les influences d'un groupe que j'avais eu l'occasion de voir en live. Et je me suis dit, ah, eux, ils seraient bien pour reproduire ce que j'aimerais bien reproduire sur scène à l'heure actuelle avec ce nouveau disque.
Qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu es sur scène ?
Voir le public s'amuser et le regard de... Oui, le regard du public, voir que ça fonctionne vis-à-vis d'eux. Moi, je suis un musicien que je considère beaucoup comme un musicien de studio. Ce que j'aime beaucoup, c'est créer des morceaux. C'est ça qui me passionne. Voir l'avancée d'une chanson, la terminer et me dire ça y est, il y a un produit fini, quoi, et j'ai fait ça. Ça, c'est ce qui me plaît le plus. C'est à ce moment-là que je ressens le plus de magie. Sur scène, ce qui est bien, c'est l'énergie avec les musiciens, à se dire on est en train de donner quelque chose au public. Et c'est pour ça que j'ai voulu justement avoir Ivy, donc le groupe, parce que j'avais envie de donner quelque chose de différent. J'aime bien quand quelqu'un paye sa place de concert ou qu'il vient voir un concert, qu'il ait des versions un petit peu différentes, qu'il ait une intention différente, qu'il soit un peu surpris de ce qu'il vient voir. C'est pour ça que je voulais des musiciens aussi.
Tu es ce qu'on appelle un artiste complet ? Auteur, compositeur, interprète.
J'essaie.
Est-ce qu'on a déjà entendu du André à la Fontaine sans savoir que c'était du André à la Fontaine ? Je m'explique. Hein. Est-ce que ça t'est arrivé d'écrire ou de composer pour d'autres artistes ?
Alors, j'aime beaucoup l'exercice. Je ne l'ai pas réellement fait. J'ai participé à des projets d'autres artistes, etc. Mais moi, en tant que tel, avoir sorti totalement un morceau pour quelqu'un d'autre, non. Après, je ne te cache pas que c'est une des choses sur lesquelles je me penche de plus en plus pour l'instant. Parce que ça me passionne, j'aimerais bien écrire pour des personnes qui n'ont pas exactement la même voix, qui n'ont pas exactement le même style, justement écrire dans des registres différents. Pour te donner un exemple, mon album ici, La Fatalité, est un album qui est plus pop que mes autres disques. Mais c'est quand même pas de la pop normale, c'est-à-dire que on peut être surpris par des mélanges d'influences. Il y a du rock, il y a des choses un petit peu perturbantes, mes chansons sont pas forcément couplets-refrains comme une chanson, mais j'adorerais écrire des couplets-refrains pour quelqu'un d'autre. C'est juste que moi... C'est pas que je me l'interdis, mais quand un truc est trop évident, je me dis oh là là, non, je peux pas faire ça. Quand un truc pourrait même sembler trop populaire, ça me perturbe. J'ai besoin que ce soit différent.
En plus de la musique, Andrea, tu étais mannequin. On peut dire qu'en te voyant, les filles comprennent pourquoi. Quelle autre forme d'art que la musique et la photo t'intéresse le plus ? La comédie, la peinture ou la danse, par exemple ?
Oui, la littérature, savoir réussir à faire quelque chose à travers les mots, c'est quelque chose qui me passionne et j'envie des fois le talent des auteurs. Moi, j'essaie de temps en temps. J'ai déjà eu des tentatives de romans. Je sais qu'il faut une discipline que j'ai pas forcément. Faire une chanson m'est plus naturelle. Mais je continue, je persiste en tout cas. J'aimerais y arriver un jour. Pour ce qui est du cinéma, c'est vraiment en tant que spectateur. J'ai une passion pour tout ce qui est autour du cinéma, que ce soit le fond comme la forme. J'aime la réalisation, j'aime voir de beaux plans, j'aime entendre de belles musiques au cinéma. Et ça, d'une certaine manière, même si c'est en tant que spectateur, la musique de film est quelque chose que je suis en train d'approcher pour le moment. J'ai des discussions pour ce genre de choses-là. Et j'aimerais beaucoup faire de la musique de film à l'avenir. Ouais.
Andrea, sans te faire de flatterie, il faut dire que tu fais partie de ceux qui foncent et qui réussissent, qui entreprennent au travers des différentes activités que tu fais. Je voudrais donc te poser une question pour un ami.
Ok.
Quel est le meilleur enseignement que la vie t'ait appris ?
Souvent, on va plutôt te freiner dans la vie. Je crois qu'il faut oser un maximum. Et il faut aussi ne pas être trop procrastinateur. Et moi, je l'ai été, hein, pour être honnête. Mais je pense que prendre l'occasion quand tu l'as devant toi, c'est quelque chose qui te fait avancer. Et tenter aussi. Tu ne pourras jamais te dire que quelque chose n'a pas marché si tu ne l'as pas fait. Après, d'un niveau artistique, pour venir à ma carrière et tout ça, c'est penser à soi et à ses goûts à soi. Sauf si tu veux faire quelque chose qui fonctionne commercialement. Là, c'est différent. Tu es toujours plus à l'aise de produire quelque chose qui te plaît. Ça, c'est important. Donc, faire quelque chose qui te plaît.
J'en parlais un instant, hein, tu fais déjà partie d'un groupe de Bukowskis, ouais, dont tu es le leader. Mais si pour un seul concert, un seul soir de spectacle, tu pouvais choisir n'importe quel musicien pour t'accompagner sur scène, vivants ou morts, qu'est-ce que tu choisirais ?
Comme batteur, je crois que je mettrais Tony Allen, qui joue de la batterie sur, entre autres, hein, mais il a fait énormément d'albums, même seul et tout ça, qui joue de la batterie sur, pour le grand public, sur La Ritournelle, par exemple, de Sébastien Tellier. Et... je trouve son jeu très particulier, ça m'obsède. S'il fallait des personnes à la guitare, soit... non, je vais prendre ça parce que ça me va bien. En fait, j'ai deux groupes qui sont mes groupes préférés, mais c'est avec le même chanteur, qui sont The Voice et les Strokes. Et je vais prendre un des deux guitaristes des Strokes, même si j'aime mieux le jeu à l'heure actuelle de ce The Voice, mais c'est Albert Hammond Jr., qui est le guitariste des Strokes, donc. Pourquoi ? Parce que j'aime bien sa carrière solo à lui aussi. Donc ça me fait une sorte de joker. J'aime bien ce qu'il fait comme chanteur et comme musicien, mais je l'aime bien comme guitariste de mon groupe préféré. Pour la basse, c'est assez particulier, mais je vais prendre Bertrand Burgala, qui est un chanteur français. Mais ses lignes de basse sont terribles et je pense qu'il en joue beaucoup lui-même sur ses disques. Ça me plaît beaucoup. Niveau clavier, qu'est-ce qui m'obsède comme clavier ? C'est très compliqué. Est-ce que je prends un pianiste, un claviériste ? Il y a tellement de gens qui me plaisent, oui, dans la musique, et avec des inspirations différentes. Je ne saurais pas faire un choix cadré, direct, j'aurais du mal.
Dans ton nouvel album solo, Andrea, ouais, La Fatalité, on peut notamment découvrir des titres tels que Sans Rancune, ouais, Le Miroir de la Piscine,
ouais,
ou encore Dans la Nuit. Bon, c'est d'amour, hein, qu'il est question dans ces trois chansons. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as déjà fait de plus fou par amour ?
Moi, bon, déjà, il faut savoir qu'avec ma femme, on s'est mis ensemble le jour où on s'est rencontrés.
Ah.
Donc c'est déjà assez particulier pour la majorité des gens. La première soirée qu'on a passée ensemble, elle m'a ramené chez elle. Elle m'a un peu kidnappé, c'est ce que je dis souvent en rigolant, mais...
Tu t'en plains ? Tu t'en es plein ?
Pas du tout, ben, du coup, pas
voilà,
du tout.
Voilà, d'accord.
Et je me suis réveillé le lendemain, et puis quelques jours après, en ayant passé le reste de mes nuits chez elle, on est allé chercher mes affaires dans mon appartement, et j'ai emménagé chez elle. Donc c'est vraiment, pour beaucoup de personnes, ça peut sembler fou, d'autant plus qu'on a voulu se marier directement. Je me suis marié assez jeune.
À quel âge t'es marié ?
Je me suis marié à 25 ans.
Ah oui, un bel âge déjà pour se marier.
Ouais, ça faisait un an et demi qu'on se connaissait, mais on voulait déjà se marier après quelques mois. Mais il y a plusieurs mariages dans sa famille à ce moment-là, on voulait pas faire doublon au même moment.
D'accord, ouais.
C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, pour être honnête avec toi.
Tu dis que chaque jour, tu écoutes un album entier chez toi. T'as donc une culture musicale beaucoup plus vaste que la mienne. Je vais donc te demander de partager avec moi quelques titres que tu trouves les plus incontournables en répondant à la question « Quelle est la chanson qui ?»
Ok.
La chanson qui te met automatiquement de bonne humeur.
Je crois que c'est la reprise de Billy Paul de Your Song d'Elton John. Ça me met plutôt en joie. J'aime bien l'original de Your Song, bien entendu. Mais j'aime bien cette version-là. Elle est vraiment cool. Ça me met plutôt en joie. Voilà.
Aussi. Et d'ailleurs, je préfère d'ailleurs celle de Billy Paul. La chanson que tu penses avoir le plus écoutée dans ta vie ?
C'est une excellente question. C'est peut-être une chanson d'Unknown Orchestra qui s'appelle Multi Love, que je mets souvent dans mes tops de classement comme une des chansons qui me plaît le plus. Donc elle doit en faire partie. Après, je dis ça, comme je le disais tout à l'heure, Lucio Battisti est mon chanteur préféré, j'écoute Battisti presque tous les jours. Donc en réalité, c'est certainement une chanson de Battisti. Mais dire laquelle serait impossible pour moi.
Beaucoup de références de chansons que je devrais aller écouter, toutes celles que tu cites. La chanson qui te fait, qui peut tout du moins te faire pleurer quand tu l'écoutes.
Je pleure surtout tout et n'importe quoi, mais assez facilement, ça dépend de mon état d'esprit, parce que je suis fort nostalgique dans la vie, donc une chanson même joyeuse peut me faire pleurer. Je sais aussi que des choses assez tire-larmes, mais presque cliché, une chanson de Riccardo Cocciante qui s'appelle Quando finisce un amore, c'est un peu banal, c'est un peu cliché, mais je sais que j'ai beaucoup pleuré sur cette chanson-là quand j'étais ado. Et ma femme me signale souvent que quand on est en fin de soirée et que j'ai envie de déprimer, j'écoute Serge Reggiani. Et Serge Reggiani me fait plutôt pleurer, en tout cas déprimer. Il y en a plein, donc dans ce cas-ci, je pourrais dire L'absence ou la chanson de Paul ou Le petit garçon. Ce sont des chansons qui me font beaucoup pleurer. Même l'italien peut me faire pleurer, pour être honnête. Donc Reggiani me fait plutôt pleurer. C'est l'interprétation, je crois.
La chanson qui t'a donné envie d'en faire?
Écoute, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que je crois que c'est un ensemble de choses depuis toujours. J'ai toujours écouté de la musique depuis très longtemps. Et donc, par exemple, quand je te dis que j'écoutais Kiss quand j'avais 7-8 ans et tout ça, c'était ma période hard rock, quoi. Entre 7 et 10 ans, c'est ma période hard rock. Mon père aime bien raconter que quand j'étais gamin, vers 3 ans, je chantais des chansons de Moustaki ou de Ferré. Et donc, je crois que j'ai eu ma période chanson française d'auteur très jeune. Et par la suite, j'ai été obsédé vers 10-12 ans par Dire Straits ou Supertramp, des groupes un peu plus classic rock, Bruce Springsteen, que j'écoutais beaucoup, Bowie, à cette période-là. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que j'aurais adoré de faire la musique. Après, je crois que la première fois où je me suis rêvé sur scène, il y a deux chansons qui revenaient souvent chez moi. Il y a une chanson de U2 qui est Party Girl, qui est une de leurs chansons qui ressemble moins à ce que fait U2, donc qui me plaît plus. Et peut-être Modern Love de David Bowie. C'est un classique, mais j'adorais ça. J'adorais ce que faisait Bowie, China Girl, Modern Love, les morceaux de l'album Let's Dance au départ. Puis par après, j'ai beaucoup aimé Ziggy Stardust, etc., les albums précédents.
La chanson que tu mets en faisant l'amour.
Ah, c'est une belle idée, ça. Du disco fin 70, électro-disco du Moroder ou un truc comme ça, I Feel Love, ce genre de truc de Donna Summer qui chante un peu derrière. Il y a un truc sensuel. Dans une idée de faire l'amour dans un film, c'est un peu ça qui pourrait coller, quoi.
Très sensuel.
Ouais, ça fonctionne, c'est bien. J'adore Donna Summer.
Oui, moi aussi.
Okay.
Elle ferait un très beau fond sonore pour des moments de tendresse. La chanson qui était faite par un autre artiste, mais tu aurais adoré la faire toi.
Oh, ça arrive souvent, ça. Ce serait Precipice Fantasy de Coup de Lame. C'est un morceau qui, de par l'utilisation des effets sur la voix, le rythme, la folie du morceau, c'est un truc que j'aurais bien voulu faire et qui se rapproche de la musique que j'aime bien faire par moments. Voilà.
La chanson que tu préfères chanter parmi toutes?
J'adore Quand j'étais chanteur. Je trouve que c'est une chanson justement sur la nostalgie et la fatalité, pour reprendre le titre de mon album.
Absolument.
Qui parle de quoi qu'il arrive, tu vieillis, quoi qu'il arrive, tu deviens dépassé, quoi qu'il arrive, tu deviens ringard, d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est la fatalité. Quoi qu'il arrive, on meurt, comme il le dit dans la chanson aussi. Mais ça me touche beaucoup, parce que derrière ce côté un peu guilleret, derrière ce côté chanteur populaire de Delpech, c'est une chanson sur la nostalgie et la fatalité. Et je trouve ça très beau.
Exactement. Et magnifique clin d'œil d'ailleurs à ton dernier album, La Fatalité. La chanson qui, selon toi, est la plus belle qui t'était faite?
La plus belle chanson du monde, pour moi, c'est Prendi la Così de Battisti. Mais j'ai aussi tout ce qui a été fait par Burr Bacharach, compositeur, tout ce qu'il a pu écrire, etc. Des chansons comme The Look of Love, des choses comme ça, ça me... Walk on By. Ça sont des chansons qui me touchent énormément. Tout ce qu'a fait Burr Bacharach, pour moi, est parfait. Ce sont des chansons qui sont les plus belles du monde.
En tout cas, Andrea, je me dépêche, je termine l'interview et puis je cours aller écouter du Battisti. Hein, parce que j'imagine que ça va être une grosse découverte. Hein.
Certainement, si tu n'as jamais écouté, oui, c'est toujours une découverte et c'est varié.
Ah ben là, je te crois sur parole. Avant de te libérer, Andrea, on passe à la minute libre. Je te laisse maintenant une minute pour dire ce que tu veux. Tout ce que tu veux, comme tu le veux, si tu le veux.
Ah, ce que je veux dire avant tout, c'est écouter de la musique, surtout la mienne.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Non, mais
je partage ton avis d'ailleurs.
Vu que je suis en promotion pour l'instant pour ce concert, qui est la seule représentation que j'ai décidé de faire volontairement, et j'ai choisi de le faire dans un bel endroit qui est le Théâtre à Liège, je pense que pour les gens qui aiment la musique et qui aiment passer un bon moment dans un chouette endroit, ce concert est certainement l'occasion de le faire d'une façon simple, entouré de chouettes personnes pour s'amuser, et je serais ravi qu'on puisse découvrir ma musique différemment. Je crois que c'est une belle occasion de voir l'étendue de ce que j'ai déjà fait, en fait, parce que j'ai réfléchi ce concert comme un ensemble. Au-delà de présenter l'entièreté de La Fatalité, mon album, je représente quelques morceaux que je n'ai jamais joués sur scène et d'autres morceaux que je considère comme des classiques de mon groupe aussi. Et oui, il y a un côté nouveau, best-of, différent. C'est un spectacle concept en soi, et j'espère que des personnes viendront le voir et que ça plaira. Voilà.
Ils viendront nombreux, ça c'est certain. En tout cas, pour ma part, j'y serai avec plaisir. Merci Andrea, je tiens à te dire que c'était un plaisir pour nous de te recevoir.
Merci à vous.
Je rappelle le nom de l'album qu'on peut retrouver en magasin ainsi que sur toutes les plateformes de streaming, La Fatalité d'Andrea Lafontaine, qui sera en concert le samedi 22 novembre prochain au Théâtre de Liège. Accompagné sur scène par le groupe Ivy, un rendez-vous à ne surtout pas manquer, croyez-moi. C'est la fin de 24e ciel sur FMR. Merci d'avoir été avec nous. On est très impatients de vous retrouver pour un prochain numéro de votre rendez-vous du vendredi après-midi qui vous emmène au 24e ciel. Bonne soirée sur FMR. À bientôt.